Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ici avec Erwan de chez Cyber Angel. Bonjour Erwan.
Salut.
Alors Erwan, c'est ma première interview en webcom. J'espère que tout va bien se passer. Si on voit qu'il y a un truc qui coupe, on essaiera de reprendre comme on peut. Erwan, est-ce que je peux d'abord te proposer de te présenter toi-même et puis représenter ta boîte pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, ce que je te proposerais, c'est de simplement me décrire ben, déjà votre punchline, donc ce que vous faites exactement, et de nous donner les différents milestones financiers de ta boîte pour que tout le monde se repère où tu en es dans votre phase de croissance.
Donc, je suis Erwan Kirodi, je suis le CEO et cofondateur de Cybel Angel. Cybel Angel, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on trouve des fuites de données partout sur la planète pour les grands groupes. On les alerte de ces fuites de données, ils font fermer ces fuites de données et ces informations ne tomberont jamais dans de mauvaises mains, sachant que le type de données dont on parle, c'est des secrets qui sont. Qui peuvent, des secrets industriels, de la propriété intellectuelle, qui peuvent avoir une immense valeur en fait pour les grands groupes, des projets à plusieurs milliards et autres. Voilà. Aujourd'hui, on est 80, 90 dans la société, à peu près 90, je pense. On est localisé en France et aux États-Unis. On a des clients en Europe et aux États-Unis. On a une croissance, une très bonne croissance, quoi, de l'ordre de. Lors de ce, de, on double de taille à peu près tous les ans.
D'accord, super. Et donc, tu me disais, vous avez été créé en 2013, si mes souvenirs sont bons. Seed en 2015, 1 million. Et puis, 2017, vous avez fait 3 millions avec Serena. Et 2018, 10 millions avec BPI et Serena a suivi. C'est bien ça? Et c'est quoi la prochaine étape pour vous? Que vous avez déjà prévu?
En fait, moi, ça fait 8 mois que je suis 10 mois maintenant que je suis relocalisé aux États-Unis.
OK.
Donc ça marche plutôt bien, on génère pas mal d'argent assez vite, j'ai structuré une belle équipe là-bas. J'ai embauché le numéro 2 du FBI à Chicago. À présenter comme ça tous ces secrets qu'on trouve à travers la planète aux grands groupes américains. Et donc du coup, la prochaine étape, c'est continuer à faire beaucoup, beaucoup de ventes et de traction aux États-Unis, en Europe, et probablement pour ça, on aura besoin... De continuer l'expansion et trouver du fuel pour cette expansion, à la fois avec nos clients actuels, mais peut-être avec des investisseurs autres. Voilà.
C'est quelque chose que tu as déjà dans le radar ou c'est plutôt pour les années qui viennent?
Ouais, on n'est pas en recherche active de fonds aujourd'hui, parce que voilà, mais c'est quelque chose qui va arriver un jour. Ouais.
D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on se replonge un petit peu dans les débuts 2013. Cybersécurité, c'était pas. Qu'est-ce qui t'a plongé, donné envie de te plonger dans ce domaine?
Alors moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, je viens de la finance en fait. Donc j'ai
Ok.
été analyste financier, puis ensuite trader, puis ensuite patron des traders pour un groupe bancaire international, notamment en France, puis en Asie. Et donc je connaissais une chose principalement, plus de la finance, c'est la valeur de l'information. Voilà. Et à quel point l'information, il faut la maîtriser. Et pas la laisser s'éparpiller à droite à gauche. Et donc, du coup, ce que j'ai discuté avec mon frère et mon meilleur ami à l'époque. Donc, moi, j'étais en Asie. Lui, il y en avait un qui était à Helsinki, le troisième était à Berkeley, aux États-Unis. Chercheur en crypto et pour l'un, et chercheur en intelligence artificielle pour l'autre à Helsinki. Et il montre un serveur avec des données financières des milliers de milliers de gens. De milliers de gens. Donc je dis, il faut les prévenir, ces pauvres gens. Ils vont se faire voler leur argent. Et donc, du coup, ils ont essayé de construire un prototype pour voir si on ne pouvait pas trouver d'autres fuites de données comme ça pour prévenir les gens. Et au bout d'un mois, on avait 1 million de personnes à prévenir. Donc du coup, ça faisait beaucoup. Avec ce prototype-là, je suis allé voir une banque. Et la banque nous a fait un très beau contrat à plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir récolter ce type d'informations. Parce qu'au final, quand c'est les informations bancaires de cette banque qui fuitent, c'est la banque qui paye et pas l'utilisateur. Donc du coup, ils étaient prêts voilà, j'ai eu mon premier client comme ça, ce qui est une bonne preuve de marché parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu peux avoir, t'es d'abord créateur, tu peux avoir toutes les idées que tu veux, si personne ne les achète, ça sert à rien. Et en fait, nous, on a trouvé un client et c'est là où en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore créé l'entreprise, qu'on n'avait pas encore de compte en banque et professionnel, et donc il a fallu vite, vite, vite créer la société.
Et donc, attends, donc tu es en train de me dire que tu as créé un POC et tu as directement pu vendre le POC en format de licence, du coup? Donc, tu as purement vendu. Ok, donc tu as vraiment vendu du software dès le début.
Ouais, j'ai vendu un abonnement software dès le début sur un prototype qui marchait avec trois bouts de ficelle. Et au final, avec l'argent qu'on a eu de ce client-là, on a embauché des développeurs pour faire solidifier les bouts de ficelle. Et c'est devenu un vrai produit. Et puis, en fait, on a eu d'autres clients qui nous ont permis d'embaucher encore d'autres développeurs. Et on a créé une machine de guerre, quoi, en termes de technologie. On a créé une capacité, en fait, à scanner toute l'architecture d'Internet et à trouver 1 milliard de nouveaux documents tous les jours que Google n'a jamais vu. Voilà. Et donc, parmi ces documents-là, donc c'est big data. Et en fait, on met l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité pour trouver des informations extrêmement confidentielles. Et aujourd'hui, ben, c'est plus qu'un prototype, c'est une énorme machine qui marche en continu tout le temps et qui génère des alertes. Et ces alertes sont envoyées aux clients à travers la planète.
Donc, pour résumer, si je comprends bien, donc tu te dis, OK, tu viens de la finance. Rappelle-moi les deux, trois personnes avec qui tu as créé ça, du coup.
Mathieu Finias, qui est… on était ensemble en première. Okay. Voilà, et qui, lui, est normalien, polytechnicien. Il a fait, était chercheur en crypto à Berkeley après. Et une autre personne que je connais depuis qu'il est né, puisque c'est mon frère, qui a fait Central et ensuite qui était chercheur en intelligence artificielle à Helsinki, à l'université d'Helsinki.
Ouais, donc en termes de connaissances et d'expertise, vous êtes bien armés. Là, tu maîtrises bien.
Ils sont bien armés.
Mais donc du coup, tu as le trio parfait. Vous focalisez d'abord sur un marché de niche qui est les fuites financières, si je comprends bien.
Exactement.
Et donc ça, c'est ce qui te permet d'avoir les premiers deals et qui te fait vivre de 2013 à 2015.
Exactement. Et en fait, on se rend compte, donc c'était l'époque d'Anonymous, où en fait, ce qui faisait la une de la presse tous les jours, c'était les fuites de données d'acteurs malveillants.
Ouais.
Voilà. Et donc, ben, ça fuitait dans tous les sens. Mais c'était des activités malveillantes. Et c'est de ça, par là, qu'on est rentré, en fait. Qu'on a commencé à avoir de la notoriété. Et puis, auprès des potentiels clients, qui sont des très grands groupes. Hein. Et en fait, on s'est vite rendu compte que des fuites de données, il n'y en avait pas que de l'aspect malveillant, il y avait aussi de l'aspect négligent. Et que c'était bien plus massif et bien plus critique, puisque ça faisait beaucoup plus d'informations qui fuitaient. Est beaucoup plus critique. Et donc, du coup, ben, on a utilisé cet argent pour développer nos capacités techniques, pour non pas rester sur l'aspect un peu malveillant, mais pas forcément pivoter, parce que pivoter, ça veut dire larguer un petit peu ce que tu faisais avant, alors qu'en fait, là, on a élargi notre scope de notre capacité de technique, de scan. Et en fait, on a un range qui est beaucoup plus large, qui nous permet de détecter la fuite de données de l'aspect de la négligence, c'est-à-dire à l'origine, jusqu'à la malveillance quand ça a été réalisé.
Et donc, du coup, comment ça se passe donc, vous avez commencé à trois. Tu m'as dit que vous avez dû commencer à engager des développeurs. En 2015, vous êtes combien ?
5, 10, 10, dizaines, je pense. Peut-être 5, 10.
D'accord. Et pourquoi lever, du coup, 1 million en 2015, ça me paraît un peu un montant assez dérisoire. Si tu me parles déjà de plusieurs deals à 100 000, à centaines de milliers d'euros.
Ouais. On a rencontré quelqu'un qui était assez brillant, qui m'a chassé aussi. Donc, il a été assez persuasif. Il m'a chassé justement dans les aéroports. Il était venu me voir. Il est venu voir, il m'appelle, il me fait t'es où? Et je suis à l'aéroport, je prends l'avion comme d'hab. Et il me fait attends, j'arrive et tout. J'arrêtais pas. Mais c'est quelqu'un qui est assez visionnaire, qui est toujours assez visionnaire, qui est très intéressant, qui est assez peu connu d'ailleurs, qui s'appelle Bruno Scherer, et qui a vraiment une vision assez stratégique des choses. Et au final, on était assez content de partager l'évolution de la société avec lui, d'autant plus qu'il nous a permis de nous structurer, de nous professionnaliser sur un milieu où on venait pas du tout des milieux des startups. Et quelque part, il était là au bon moment. D'un point de vue économique, on se dit ben, on aurait peut-être pu faire sans lui. D'un point de vue professionnalisation de la façon dont on travaillait, pour passer de l'étape d'inventeur à l'étape d'entrepreneur avant de devenir l'étape du chef d'entreprise.
Ouais.
Passer de l'inventeur à l'entrepreneur, t'es content de le rencontrer.
Ouais, ok. Donc, c'est ton business angel. C'est lui qui a mis tout seul ou comment ça s'est passé?
Oui, tout seul, avec son propre argent. Okay. Et, Ouais. Mais c'est intéressant de. Et puis aussi, ça nous a donné une sérénité pour gérer la société. Puisqu'en fait, quand tu fais tes deals et tout, ben, tu es tout le temps en train de calculer combien de deals il me faut pour ne pas mourir à la fin de l'année.
Ouais.
Quand tu lèves 1 million d'euros quelque part, tu délèverais le risque. Donc, en fait, tu as un coussin de sécurité qui est élevé et ça te permet de prendre plus de risques et des décisions un peu plus. Un petit peu plus dur, quoi. Que tu aurais peut-être appris sans avoir cet argent.
Ouais.
Après, c'est un état d'esprit. Enfin, c'est pas du tout un conseil que je donne à qui que ce soit. Hein. C'est en fonction de notre aversion au risque, les trois fondateurs, on est assez précautionneux. On a vraiment les gens qu'on embauche, c'est vraiment des gens qui sont exceptionnels et on a une très grande responsabilité envers eux. Et on n'a pas envie de faire une bêtise de gestion qui ferait que on serait obligé de fermer la boutique. Donc quelque part, avoir levé cet argent nous a donné une sérénité qui nous a permis de prendre plus de risques.
Ouais. Et donc toi, tu cherchais pas à lever à ce moment-là. Tu l'as dit, c'est lui qui est venu et qui a essayé de te convaincre. Qu'est-ce qui t'a convaincu particulièrement dans son discours, du coup?
C'est quelqu'un qui a quand même de belles connexions, qui nous a aussi obligés en fait à gentiment d'ailleurs, hein, sans aucune sans nous forcer, mais à professionnaliser notre reporting, notre façon d'aborder le business aussi. Et je pense qu'on en avait besoin à ce moment-là.
Ouais. C'est marrant, de toutes les interviews que j'ai faites, tout le monde évoque principalement la série A comme étant le moment de la formalisation, de la cristallisation des process, du reporting financier, de devoir pas avoir un engagement moral envers quelqu'un d'autre, d'anticiper, préparer les choses, d'avoir une vision et de ne plus trop foncer avec la tête baissée, mais aussi de devoir savoir réfléchir et de regarder à l'horizon, de se dire mais qu'est-ce qui va se passer demain.
Exactement.
Ça, ouais.
Ouais, c'est marrant, hein. Ça me paraît sain. C'est marrant parce qu'en fait, les différentes étapes de l'entrepreneur, que ce soit à la fois donc l'inventeur, l'entrepreneur ou chef d'entreprise, ça demande des compétences très différentes.
Ouais.
Il y a des étapes, un peu comme dans les étapes de la vie. Hein. À un moment, tu grandis, tu fais l'adolescence, tu rencontres quelqu'un, puis à un moment, tu te maries, tu as des gosses. C'est un peu comme la vie d'entreprise, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as des grandes étapes dans ta vie et avec des gens qui t'accompagnent et qui te permettent d'évoluer à l'étape d'après. Et quelque part, de te rendre compte que la société d'avant, il faut faire un peu le deuil. C'est-à-dire que la partie inventeur, on la laisse un peu derrière nous, même si on la garde toujours quelque part, et on passe à l'étape d'entrepreneur. Et puis, ensuite, il y a l'étape d'après, qui est la série A ou B, comme tu veux, où là, tu passes à l'étape chef d'entreprise. Il faut accélérer encore plus, de façon un peu plus puissante. Et à chaque étape, il faut qu'il y ait certaines personnes du initio qui te suivent. Et ensuite, sinon, tu fais venir d'autres personnes qui vont te permettre aussi de passer à l'étape d'après. Ça peut être des investisseurs, ça peut aussi être des collaborateurs.
Voilà, ben justement, toi, tu as fait quoi avec ton premier million que tu, de ton seed?
Boîte de nuit. Non, je rigole.
Une soirée en boîte de nuit, c'est bien.
Non. On est hyper précautionneux. On a été... très longtemps, je me souviens, sur des tréteaux un peu en mode un peu aride, on va dire, comme déco. D'ailleurs, j'ai monté la boîte quand on est allé faire les premiers deals comme ça. Je me souviens, je dormais dans le lit de mon frère avec l'imprimante qui tournait à côté, parce que moi j'étais à l'étranger en fait, avec l'imprimante qui tournait à côté au pied du lit que Stéphane faisait tourner pendant la nuit, parce que moi j'avais voyagé, j'avais pris l'avion pendant toute la nuit, donc j'étais éclaté, j'avais envie de dormir, et donc je dormais et Stéphane lui faisait tourner l'imprimante en bas, au pied du lit, parce que c'était un studio tout petit. Pendant que moi je dormais avec le bruit de l'imprimante, pour que le lendemain matin, quand on allait voir nos premiers clients, on ait quand même nos premières pitch quoi d'imprimer. C'était assez étonnant ce truc-là. Donc nous, on est assez précautionneux avec l'argent qu'on a. Comme tu l'as compris, on aime vraiment faire attention à la façon dont on dépense notre argent, et on a commencé avec notre propre argent et ensuite l'argent de nos clients. Donc on fait vraiment très attention. Ouais. La boîte de nuit, c'était vraiment une blague pour le coup. Et avec ce premier million, on a principalement embauché des ingénieurs pour développer l'outil et en deux, des analystes pour nous aider à faire des analystes cyber pour nous aider à faire du delivery. Donc pour produire ce qui sortait de l'outil et l'amener au client en termes de customer success, on va dire. Ouais. Voilà, sachant que le vendeur, c'était moi, et les ingénieurs principaux, ben, c'était mes deux associés.
Ouais. Et ils sont toujours actifs, tes deux associés ?
Ouais, oui, ils sont toujours actifs plus que jamais. Ouais. Il y en a un qui est CTO, l'autre qui est président, chairman. Et ils sont tous, donc on est tous les trois très actifs. Ouais.
Ok. Et donc, principalement, tu m'as dit des équipes techniques des équipes support avec ton premier million. Puis, tu n'as plus besoin de cash jusqu'en 2017. Ça veut dire que le business se porte bien.
Très bien, même.
Vous êtes à combien en 2017
on va parler en termes de personnes plutôt que…
Oui, en termes de personnes, bien sûr.
2017, on doit être, je ne sais pas, 20, 25, 20.
Ok, 20. Ouais, donc là, ça devient vraiment une boîte, quoi, déjà.
Oui, si tu regardes les metrics des Américains, ils te diraient bah, pourquoi tu étais si petit. On aurait pu grossir probablement beaucoup plus vite.
Ouais.
Je pense que à cette période-là déjà, je pense que potentiellement ça aurait été une erreur de notre part, parce qu'on avait besoin de se construire, de construire l'outil, de construire notre go-to-market, de construire notre messaging, la façon de se présenter. Et on a une bonne matière première, on a pris le temps qu'il nous a fallu pour construire toute la structure technique, notre capacité technique et la façon de le présenter à des clients. Voilà. Donc quelque part, on a grossi à une certaine vitesse. Qui aurait pu être plus importante, mais on l'a fait comme ça nous a représenté, quoi. C'est-à-dire calmement au début, en faisant bien attention. Quand les fondations sont bien solides, ensuite on peut pousser très fort.
Ouais, et 20-25 personnes, si on se tourne un peu sur l'interne de Cyber Angel, clairement, j'imagine que ça a eu des impacts sur votre organisation, vos manières de procéder, vos process et la culture.
Oui. Ouais, forcément, on était d'ailleurs un petit peu moins probablement, on était peut-être une quinzaine, mais déjà il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu déménages tous les 6 mois, tous les ans, parce qu'en fait tu n'as plus de place, donc comme tu grossis, finalement ben, ça fait partie de la culture d'entreprise. Ensuite, il y a un moment où en fait quand tu es trois fondateurs, ben, de toute façon, tu dors dans le même lit presque. Donc, pour en termes de communication de l'information, ce n'est pas très compliqué. Quand tu te retrouves avec d'autres personnes qui travaillent pour toi, mais il y a des moments où tu fais des réunions avec des fondateurs et d'autres moments avec tout le monde. Déjà, tu dois apprendre à communiquer. Et ensuite, à un moment, tu commences à avoir du middle management aussi.
Ouais.
Là où en fait il y a du middle management, et là il faut trouver en fait notre mode de gouvernance. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'à peu près tous les 8 mois on a changé notre mode de gouvernance. Les instances, tu vois, des réunions, les comités de direction, de sous-direction, de action management team. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez mis en place pour soutenir justement cette communication interne, cette partage de l'information?
Figure-toi que c'est à ce moment-là qu'on a créé un espèce d'embryon de comité de direction à peu près à une quinzaine de personnes. Et quand tu étais trois fondateurs à l'origine, ça fait bizarre la première fois.
Ouais, j'imagine.
C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, comme dirait France Gall. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Et en fait, c'est que le début d'une longue lignée de réunions et de comités de direction et de choses comme ça qui fonctionnent, puis qui à un moment fonctionnent très bien à une certaine taille et fonctionnent plus du tout à la taille intermédiaire un peu du dessus. Donc, il faut tout casser et tout rechanger.
Et pratiquement parlant, à ce moment-là, est-ce que vous avez commencé à vous équiper pour arriver à partager ces notes de réunion parce que généralement, on m'a parlé souvent des process HR, des job descriptions, des interviews, etc. Et également les rapports de réunion et de comment communiquer ça à toute la boîte. Jusqu'à 15, c'est encore du bricolage. Au-dessus de 15, ça commence à essayer de trouver des outils pour le faire. Est-ce que c'était le début?
C'est à ce moment-là qu'on a commencé Je crois que c'est vous aussi qui faites du knowledge management, enfin, notamment.
Tout à fait.
En tout cas, il faut à un moment s'équiper. Tout ce qui est process HR pour garder des traces des entretiens que tu fais passer aux gens et savoir comment ça évolue, jusqu'à quand tu commences à onboarder des nouvelles personnes, t'as raconté 40 fois la même chose. Ou au moins, si tu le racontes 40 fois, c'est 40 fois de la même chose, pas 40 fois de façon différente. Donc, c'est là où tu commences en fait à te standardiser avec des embryons d'outils, des trucs qui existent un peu sur étagère, voire que tu fais semblant d'inventer. Et voilà. Et c'est marrant, c'est qu'après, ça devient une. Donc, ça, c'est au début, parce que c'est toujours une nécessité dans une start-up. Hein, donc, tu ne fais pas ça pour le fun. Parce que sinon, ça devient le bordel. Puis, à un moment, ça devient une nécessité d'industrialiser le process. Donc, après, tu es obligé de passer sur des outils plus pro.
Il y a un peu des outils que vous utilisez.
Nous, on utilise, je sais pas, pour les HR, par exemple, c'est Workable. C'est à ce moment-là qu'on a utilisé Workable. C'est probablement le premier outil qu'on a utilisé en termes de HR.
Pour le recrutement, pour le coup.
Ouais, pour le recrutement, c'est un gros problème dans une startup. Le recrutement, c'est central. C'est un peu plus, quand on était un peu plus grand, qu'on s'est équipé d'outils comme Bamboo HR, pour tout ce qui est HR de façon pour l'induction des gens, pour leur partager les documents. Là, on s'est équipé de DocuSign pour tout ce qui est signature, de tout ce qui est HR, mais aussi maintenant tout ce qui est contractuel. Pour tout ce qui est contractuel aussi, Bamboo HR, DocuSign, tout ce qui est commercial aussi, on a commencé avec des premiers, à ce moment-là en fait, quand on était 15, qu'on a commencé à avoir notre premier CRM, qui était Pipedrive, qui est tout à fait utile pour des boîtes de cette taille-là, qui ne passe pas du tout à l'échelle quand on grossit. Et donc à 25 personnes, on a cassé Pipedrive et on est. J'étais fan de Pipedrive, j'ai un petit attachement à Pipedrive, mais on est passé sur Salesforce qui était bien meilleur en fait.
Un peu plus robuste,
Voilà, et puis là maintenant, comme on fait du lead generation, parce que là maintenant on est 90 quasiment, pour faire de la lead generation et des trucs comme ça, on utilise des outils qu'on branche à Pipedrive qui s'appellent Pardot et des trucs comme ça. Et puis on a fait des automatisations dans Salesforce, des trucs comme ça, pour que les sales, c'est le moins de choses à faire dans Salesforce, pardon. Parce qu'un sales, ça a horreur de toucher à Salesforce.
et quand tu parlais justement de knowledge management, mais du coup, tu vois, tous les rapports de réunion, etc., vous les stockiez quelque part ou comment ça se passe?
Alors, ouais, on a eu. En fait, on vient de la cybersécurité, donc on a eu un historique qui était très paranoïaque.
Ce qui fait que... Je n'osais pas le demander justement.
Très très paranoïaque. C'est dans notre entreprise toujours. En fait, les gens mettent leur ordinateur dans un coffre-fort à la fin de la journée.
D'accord.
Pour te donner le niveau, en fait, donc très longtemps, on a eu toute notre messagerie qui était chiffrée en hard, chiffrement assez dur, qui pose pas mal de complexité, notamment pour faire des recherches dans le passé, des trucs comme ça, c'est quasi impossible. Donc on a dû assouplir certaines règles, modifier certaines règles, et ce qui nous a permis en fait de commencer à archiver les choses de façon un peu plus efficace. Donc ça, c'est à peu près quand on était 25 effectivement, et donc ben là on est passé sur d'autres outils, Confluence notamment, aux outils de partage de fichiers, et GitLab aussi pour tout ce qui est développement.
Ok. Et justement, Confluence, ça scale ?
Ouais, très bien apparemment.
Et vous y vous mettez quoi du coup ?
Hein ?
Confluence, vous y mettez quoi ?
Ben, c'est une grosse partie de knowledge base, ouais.
Ok. Donc pas seulement la partie technique, mais vraiment tout ce qui concerne aussi la boîte.
Sales, technique, support.
Ok, technique, support, mais et l'administratif de la boîte, ça s'y trouve aussi ?
Non, Bamboo HR.
Bamboo HR. Ok, super. Et donc là, tu me disais, on est déjà entre 2015 et 2017. 2015, vous êtes, fin 2017, vous êtes une quinzaine, si je me souviens bien. Et là, qu'est-ce qui fait que vous décidiez d'aller dire bonjour à Serena ? Enfin, vous dites ça.
Parce qu'il a fallu aller commencer à vendre à l'étranger, qu'on voulait aussi aller attaquer les États-Unis, qu'il y avait des enjeux techniques, qu'il fallait qu'on solidifie énormément notre outil. Parce qu'en fait, on avait élargi nos capacités de scan, Mais en fait, pour être capable de scanner très vite tout Internet, de plus en plus vite, il fallait qu'on solidifie le truc sans que ça explose. Et donc, du coup, il nous fallait un petit peu d'argent. Donc, on a utilisé ça pour solidifier la base produit, embaucher donc des nouveaux développeurs. C'est là où on a commencé à avoir nos premiers product managers aussi, parce qu'en fait, que des développeurs, ça ne marche pas. C'est là où on s'est rendu compte, oh, mais un product manager, c'est ce qui nous manque. Enfin, c'est a posteriori, tu dis que c'était quand même débile, on aurait dû le faire avant, c'est comme ça. Product manager, et donc cet argent nous a servi en fait à développer la base technique, mais aussi à développer le business beaucoup en Europe. C'est là où on a commencé à avoir nos premiers clients dans toute l'Europe, en Angleterre, en Italie, en Suisse, et qu'on a commencé à se dire qu'il fallait ouvrir les États-Unis. Et donc, ouais. Serena est venue, en fait, pourquoi ? On a vu pas mal de fonds, et en fait, Serena avait un avantage, c'est que c'était Bertrand Diard qui était la personne qui est venue nous voir de Serena. Et Bertrand Diard, c'est le fondateur d'une société française qui s'est cotée au Nasdaq, qui s'appelle Talend. Il venait de la côté au Nasdaq, d'ailleurs, il y a 2 ans. Et c'est intéressant d'avoir un profil comme ça qui nous accompagne. C'est lui qui a notre board, d'ailleurs, parce que, ben, justement, il a déjà fait l'expérience de passer de la France aux États-Unis avec toutes les erreurs qu'il fait. Et donc, du coup, il a pu nous aider.
Voilà. Et quand tu parles d'erreurs, quand on attaque les États-Unis, c'est quoi, typiquement ?
Ah ben, par exemple, quand on embauche un Américain, c'est pas comme on embauche un Français. Voilà. Et ça, effectivement, l'avantage, c'est
que… T'as un exemple ? Enfin, juste, tu peux te donner des détails ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Souvent, alors c'est des clichés que je vais sortir, forcément, mais un Américain, par exemple, aura toujours tout fait, il dira jamais qu'il sait pas faire. Voilà. Là où, en fait, un Français va plutôt être dans l'approche produit, dire tiens, tel produit, je sais bien le maîtriser. Hein. L'Américain, de toute façon, sait toujours tout faire. Voilà. Et ensuite, dans l'approche, un Américain va présenter comment il vend le truc et ensuite comment il est fait, alors qu'un Français va faire l'inverse. Il va dire comment c'est fait et ensuite ben, comment il vend le truc. Voilà. Donc, ben, quand tu embauches des profils marketing ou sales, c'est des choses qui sont assez intéressantes à avoir en tête parce que ce n'est pas qu'il te ment hein, quand il dit qu'il a tout fait et qu'il sait tout faire. C'est juste que c'est pas dans le même niveau qu'un Français qui dirait ça. Quoi. Voilà.
Ouais.
D'ailleurs, pas ça, quoi. Et ça, c'est quotidien. Enfin, c'est un quotidien. Et donc, du coup, un des exemples, c'est ne jamais arriver avec des discussions en l'air avec un Américain, mais plutôt sur des use cases, beaucoup de use cases, voir comment il réagit en vrai sur des vrais cas d'usage, faire des vrais reference calls pour savoir comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, les meilleurs recrutements qu'on a fait, c'est par des gens qui connaissaient déjà des gens.
D'accord.
Qui connaissaient, en fait, non, qui avaient déjà travaillé avec. Voilà.
Ok. Le principe de dire que…
Il y a un autre truc aussi, c'est que, du coup, ben, comme tu te trompes à l'entretien d'embauche, le fait de la rotation, en fait, des personnes est plus importante aux États-Unis, puisque, okay. En fait, tu peux plus facilement te tromper, dans les deux sens, d'ailleurs. Donc, du coup, le taux de turnover est plus important.
Et aujourd'hui, vous êtes combien aux États-Unis ?
Là, cette semaine, on devrait être une dizaine et je pense que la semaine prochaine, on devrait être 15.
Ah oui, effectivement, c'est doublé. C'est quand même assez important, ouais.
Et alors, tu as raison de dire que c'est aux États-Unis parce que aux États-Unis, ils ont beaucoup l'avantage, beaucoup la facilité de travailler en remote. D'ailleurs, c'est un critère important puisque les États-Unis, c'est tellement grand que si tu te dis tiens, je veux un gars à New York, t'as quand même pas mal de chances d'être déçu au bout d'un moment. Il y a des gens très très, très bien à Détroit, à Washington DC, en Floride. Donc du coup, bien les choisir. Mais par contre, se dire qu'on peut tout à fait travailler très facilement sans les voir
physiquement. Ouais. Mais du coup, ouvrir justement un nouveau bureau a eu un gros impact, j'imagine, sur la culture d'entreprise. Ça a eu de manière générale.
Non, tous les entrepreneurs, en fait. Donc, du coup, nous, tu discutes à ce moment-là avec tous les CEO que l'on a déjà fait pour se rendre compte des erreurs que tout le monde a faites et que tu vas aussi faire, comme tout le monde. C'est un peu une tragédie grecque, hein, tu refais les erreurs. Donc, c'est comme ça. Faut
que tu fasses. C'est comme ça qu'on apprend, paraît-il.
Et donc, effectivement, là, il faut surtout faire attention à ne pas créer deux boîtes orthogonales.
Ouais. Voilà.
Et avec leur propre culture, leur propre process, leurs propres outils. Non, il faut déjà structurer la culture d'entreprise, structurer les outils et se dire qu'on peut y aller aux États-Unis en faisant, en essayant de développer ça. Sachant que de toute façon, la culture va être un petit peu différente. C'est inévitable. Il ne faut pas qu'elle soit orthogonale. C'est vraiment ça.
Ouais. Et comment vous y faites pour faire attention à ça ?
On fait voyager les gens beaucoup, donc il faut vraiment prévoir un budget voyage qui est important. Faut que la culture d'entreprise ait été fixée avant, que les rituels existent déjà avant, les rituels de meeting et des choses comme ça, de town hall, soit inclusif aussi, que ben, en France maintenant tout le monde parle anglais et tout le monde doit parler anglais sur le chat interne et c'est important que ben, pour ne pas être exclusif vis-à-vis de nos amis américains. Voilà, donc ça marche dans les deux sens, c'est que les Américains s'intéressent à la France, mais ils le font assez facilement parce qu'en fait la base de IT et ingénierie est ici et que les Français s'intéressent aux Américains. Voilà. On fait voyager beaucoup les gens, on a procédé, les process sont les mêmes, les outils sont les mêmes. Voilà. Et on se rencontre et on fait venir. Ah oui, notamment pour tout ce qui est formation, quand les Américains arrivent, on les fait par batch entier, on les fait venir en France pendant une semaine quasiment. Donc c'est des gros coûts, mais c'est des coûts qui sont indispensables, sinon tu te retrouves avec deux équipes qui ne se parlent pas.
Ouais. D'où le double risque d'avoir un turnover élevé avec ces coûts de déplacement. Tu n'as pas trop intérêt à te planter sur le recrutement. Ou pas trop souvent.
Oui, sauf que c'est une illusion de se dire ça. Donc, en fait, on fera comme tout le monde. On se plantera sur certains recrutements, mais ce n'est pas grave.
Ouais. OK. C'est intéressant. Et donc, du coup, 3 millions chez Serena. L'année suivante, 10 millions. C'est quoi ? C'est le moment où tu dis, OK, c'est bon, on est prêt. On a les bases suffisamment solides que pour attaquer.
Ben en fait, on a fait avec les 3 millions, j'ai commencé à aller tester les US dans les allers-retours avec un petit setup et ça a bien marché. Et donc, du coup, ben, il a fallu, on voulait pousser plus fort, plus vite. Et les US, ça coûte. Et du coup, ça nous a permis aussi de voir à quel point ça coûte cher les US. Cher parce que les profils coûtent cher, mais aussi parce qu'il y a du turnover. Et donc, du coup, on est allé, on a levé 10 millions. Et, et puis, un autre truc aussi, c'est qu'on a toujours grossi notre chiffre d'affaires juste à cette période-là, même jusqu'à Serena, avec deux sales. Ce qui est une hérésie en fait, on aurait dû construire l'équipe de vente bien avant. Et donc, du coup, ben, quand on a levé les 10 millions, on est passé de 2 sales à 12 sales.
Et voilà. Ça a été, ça n'avait pas trop été difficile ?
Non. On a recruté l'erreur, c'est de. Enfin, la solution, c'est de recruter des gens qui t'aident en fait à construire ces équipes-là. Donc, des cadres qui viennent du coup qui sont expérimentés et qui coûtent un peu plus cher, mais qui ont une expérience qui te permettent en fait de recruter les bonnes personnes et d'avoir les bons process, de t'aider à mettre en place les bons process. Que ce soit, par exemple, c'est avec Serena qu'on a commencé à embaucher un CFO, tu vois, notamment,
ouais.
Un VP Sales qui nous a aidé à construire l'équipe de Sales. Et là, maintenant, on a une équipe de BDR, des gens qui font de l'inbound et de l'outbound, génération de l'inbound et de l'outbound leads. Ces équipes-là qu'on construit que maintenant, en fait. Donc, un peu tard.
J'imagine que pour vous, c'est assez facile. Vous crawlez le web, vous trouvez les failles, et puis il suffit d'aller frapper aux portes des boîtes en leur disant « Regardez ce qu'on a sur vous ».
Ouais, alors c'est pas comme ça qu'on fait, en l'occurrence.
D'accord.
On est un peu plus civilisé. On va voir les entreprises en disant ce qu'on est capable de faire. Et là, en général, ils nous disent « Ah, c'est intéressant, et comment on pourrait travailler ensemble ?» Et là, on dit « Si vous voulez, on peut vous montrer ce qu'on est capable de faire sur vous. Mm-hmm. » Et là, on montre. Et c'est à ce moment-là où ils disent « Ah, mais c'est très important, c'est très grave ce que vous trouvez. On pourrait travailler ensemble sur le plus long terme. Voilà. »
Ok. Donc, le pitch n'est pas trop difficile à faire passer.
Le pitch n'est pas difficile à faire passer. Ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes personnes parce que c'est un problème qui est nouveau. Alors, tu as les startups qui font des… copycat de trucs existants, à ceux qui essayent de défricher un terrain un peu nouveau. Si tu défriches le terrain nouveau un peu trop tôt, ben, tu meurs, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est capable de t'écouter. On le défriche, donc on a quasiment très peu de concurrents, voire pas. En tout cas, sur tout le range qu'on a réussi à construire, les concurrents sont soit l'un, soit l'autre. Nous, on fait vraiment tout. Le problème, c'est que tu te retrouves avec des... dans une partie évangélisation, à expliquer ce qu'on fait. Et peut coûter de l'argent et du temps, mais on ne fait pas trop tôt. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est juste intermédiaire, c'est juste la période intermédiaire qui est sympa, où on est en mode évangélisation, mais on n'est pas en truc, on n'est pas à se battre après 40 concurrents sur un marché hyper mature, et on n'est pas en train d'essayer d'évangéliser un marché de toutes pièces. Donc je pense qu'on a eu un peu de chance, on se situe à peu près au bon moment.
Ouais. Et c'est quoi, c'est qui votre persona? Du coup, les CSO, s'il y en a un, j'imagine?
Exactement, Chief Information Security Officer, ou ce qu'on appelle en français un RSSI, un Risk Security Système d'Information. Les RSSI, les CISO, on a aussi des bonnes, on s'entend bien en fait, et les gens entendent bien quand c'est de l'information stratégique qu'on trouve, avec une faille technique. Donc, soit l'aspect technique, soit l'aspect business, avec notamment le juridique, la compliance, le secrétariat général. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à montrer ce qu'on trouve à assez haut niveau dans l'entreprise, parce que ça peut remettre en jeu la vie de la société, tout simplement. Donc, il nous faut des gens qui sont capables de comprendre ça.
Ouais. D'accord. Et donc là, 10 millions, croissance. Tu me dis, vous avez recruté une équipe commerciale, vous l'avez montée. Pour toi, c'est quoi ta recommandation plutôt de monter une équipe commerciale graduelle en disant « Ok, j'ai une personne, deux personnes, trois personnes » ou c'est de trouver la bonne personne qui te permettrait de monter une équipe et lui dire « Vas-y, monte une équipe complète. »
C'est une question qui est super importante parce que ça peut te tuer. Donc, du coup, la première étape, c'est déjà que l'un des fondateurs s'y colle dans l'étape early. Parce que si tu, dans ton équipe de fondateurs, tu n'as pas quelqu'un qui est capable de faire de la vente, tu vas louper les messages importants que les clients vont te remonter pour te dire de modifier ton outil, te pivoter éventuellement. Voilà. Donc déjà, c'est important d'avoir dans l'équipe de fondateurs un business. Ensuite, commencer à vendre avec des gens qui sont... très flexible en termes de capacité de vente, c'est-à-dire de générer du lead jusqu'à closer. Donc là, c'est des profils, on fait ça bien, on a des très bons profils comme ça. Là, aux États-Unis, ils sont un petit peu moins bons. Voilà. Ensuite, tu vas commencer à monter, tu vas en mettre un, deux, trois, et en fait, tu vas te rendre compte que tu t'épuises à empiler des gens qui ont des compétences très particulières, d'être capable de tout faire. Et donc, il va falloir commencer à segmenter l'acte de vente entre le marketing, la génération de leads et le closing d'une transaction. Et c'est à ce moment-là où il va falloir embaucher quelqu'un qui est capable de t'aider là-dessus. Donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on a embauché un VP Sales et tester sur 2-3 sales, jamais un seul.
Okay.
Tu sais pas si, le problème, si tu ne vends pas, tu ne sais pas si ça vient du sales, ou si ça vient de toi, ou si ça vient du produit. Donc, tu fais ça sur 3 sales à peu près, ou entre 2 et 4 sales, on va dire. Et puis, une fois que tu l'as fait un petit peu comme ça, tu montes à plus grosse échelle parce que tu vas avoir, en fait, dans tous tes deals que tu vas signer, tu vas détecter, en fait, des patterns positifs qui fait que, ah tiens, ce deal-là, ils ont vendu pour les mêmes raisons. Donc, c'est là où tu vas commencer à rendre ton process de vente réplicable. Et c'est à ce moment-là où tu as un process de vente réplicable qui est en siloté entre différentes étapes, avec des compétences spécifiques sur des vendeurs, avec une équipe de management qui est capable de gérer ces vendeurs, parce que tu commences à faire des forecast reviews, des meetings, des trucs comme ça, et des pipeline meetings. Et ben là, à ce moment-là, tu peux mettre plus de vendeurs. Si tu commences à mettre 10 d'un coup, moi, je me serais planté, parce que j'ai modifié beaucoup de choses entre maintenant et quand on est 10 vendeurs. Et mes potes qui l'ont fait sont fait très mal. Voilà. Mmh. Peut-être un de mes collègues, il a un fondateur d'une startup qui a levé 20 ou 30 millions d'euros et il a embauché, du coup, il est passé de 1 à 21 sales et au bout d'un an, il se retrouvait qu'avec un sales.
Ça fait mal. Ouais.
Et pas forcément la faute des sales, en fait, en l'occurrence. C'était plus sa faute à lui. C'est-à-dire qu'il a un truc qui n'était pas scalable à l'époque.
Ça t'a pris combien de temps, toi, pour structurer ton équipe commerciale et d'avoir un truc qui fonctionne, même si ce n'est pas toi qui le fais? Parce que comme tu l'as dit, au début, c'est toi qui vends, c'est facile, tu maîtrises le produit qui est quand même vachement technique sur l'explication de comment ça fonctionne. Tu pitches à des profils plutôt haut niveau, donc tu ne peux pas leur mettre n'importe qui devant eux, ça doit tenir la route. Donc, comment t'as pris combien de temps pour arriver à ce que d'avoir une équipe sales qui arrive à bien vendre?
Ben, encore une fois, un Américain rigolerait s'il écoutait ces chiffres, mais ce serait, je dirais, de l'ordre de 3 ans. Mais en fait, ouais, bien 3 ans, sachant que j'ai appris sur le tas comme tout le monde. Hein. Tu lis des bouquins, tu parles à beaucoup de CEO qui ont fait ça, tu parles à des VC qui ont déjà aussi cette expérience-là. Donc, moi, j'y suis allé très humblement. Maintenant, tu me le demanderais de faire une deuxième fois. Je sais comment on fait, quoi. Mais 3 ans, mais du coup, je sais exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. L'étape, ouais. Et si tu demandes ça à un Américain, les gars, c'est des machines, donc il serait peut-être arrivé à le faire en un an. Mais bon.
Tu penses que c'est, les Américains sont particulièrement bons sur la partie commerciale ?
C'est pas ça. C'est qu'en fait, tu connais beaucoup de boîtes qui sont passées de, allez, on va dire de 1 million, 2 millions, allez, c'est à peu près à ce moment-là, 2 millions d'euros de revenus jusqu'à 100 millions de revenus en 5 ans, on va dire. En France, il n'y en a pas des masses. En Europe, il y en a quelques-unes. Aux US, il y en a. Et donc, du coup, ce qui manque, c'est le nombre de personnes qui sont capables de le faire. Je te dis, moi, tu me demandes de le refaire une deuxième fois, je sais exactement, j'ai le menu maintenant en tête. Aux États-Unis, il y a des gens qui l'ont déjà fait.
Ouais. Donc,
ce qui manque, c'est en France et en Europe, c'est les compétences de gens qui le font. On est tous en train d'apprendre par soi-même. Ou alors en partageant l'expérience. Et donc le partage d'expérience, votre initiative, elle est louable, parce que justement, c'est important d'avoir, quand tu es entrepreneur, tu es un peu seul devant l'immensité de choses à faire, et le fait d'en avoir d'autres qui l'ont déjà fait, tu gagnes un temps fou.
Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ton lead sales, il vient des États-Unis du coup?
Alors, mon VP marketing, il vient des États-Unis, puisque justement, il a déjà fait ça plusieurs fois. Et donc, copier-coller et boum, en 9 mois, c'était torché, tout roulé. Voilà, c'est ce que je te disais juste avant sur le marketing. Sur Customer Success, c'est quelqu'un qu'on a fait monter, qui était une employée numéro 4 ou 5, qui est au comité de direction aujourd'hui, donc qui est Apolline, qui a tout construit, toute pièce, mais bon, c'est un esprit hyper supra brillant, donc elle est capable de tout inventer au fil de l'eau. Et côté sales, c'est une personne qui vient de chez LinkedIn, qui était le patron des ventes Europe de LinkedIn, et avant était le patron des ventes Europe de Microsoft Azure.
Ok, donc quand même des grosses pointures.
Ben, soit des gens qui c'est vraiment marrant, parce que soit c'est des gens qui ont grandi avec l'entreprise comme Apolline,
ouais,
qui continuent à grandir et qui continuent même à faire grandir l'entreprise, parce que c'est elle qui peut tirer, tu vois, l'entreprise, soit des profils qui viennent très expérimentés et poum, copie-colle. Et
ouais.
C'est les deux profils et tout le monde cohabite et ça se passe bien.
Et du coup, maintenant, c'est quoi ta répartition sur les 90 entre profil tech et profil non tech, si je puis dire?
Où ça? Pardon, je n'ai pas
compris. Dans les 90 personnes qui composent ta boîte aujourd'hui, c'est quoi la répartition?
Alors, dans les 90, donc dans les 90 personnes.
Ah oui, pardon, 90. Oui,
ça. Ah, pas du tout. On est passé de 70 à 90 aussi. Hein, pas de
voilà.
Et donc, du coup, sur les 90, on est une vingtaine, 20, je dirais 25 ingénieurs, 18, 20 customer success, analystes, voilà, et 10, 15, 10 sales, plus on va dire 5 marketing, on va dire une quinzaine sales marketing.
Ok. Et donc, du coup,
et la proportion va augmenter de sales and marketing, ce qui est tout à fait normal à cette étape de croissance de notre
société. Oui, d'autant plus vu que tu as dû attaquer d'autres pays et j'imagine qu'à un moment, tu commences à avoir une technologie qui est relativement mature. Ok, sympa. Bah écoute, pour conclure, je demande toujours la question suivante. C'est quelles seraient tes 2-3 recommandations que tu donnerais à quelqu'un qui prépare, dans ton cas, tu as déjà fait plusieurs rounds, donc une série A et une série B éventuellement?
De parler à beaucoup de CEO ou d'entrepreneurs qui ont déjà scalé des entreprises, des startups, parce que c'est dur. Et donc du coup, et que tu te retrouves avec plein de problèmes, et en fait quand tu discutes avec les autres tu te rends compte que tout le monde a eu les mêmes problèmes à un moment ou à un autre, et donc on apprend énormément en discutant avec les autres. C'est la meilleure école de formation qui existe, que j'ai trouvée. Et puis dans ce milieu là les gens sont très ouverts pour parler. À ce qui est juste le facteur limitant, c'est le temps, mais c'est vraiment le truc le plus important. Et à un moment, se dire que tu n'es plus capable de tout faire par toi-même, qu'il faut t'entourer de gens qui sont de toute façon par défaut meilleurs que toi, donc il faut que tu choisis les meilleurs. Sauf que à partir de la série A, série B, il faut investir dans des profils expérimentés qui arrivent avec de l'expérience et qui sont capables de faire bouger les choses très vite. Voilà. Ne pas non plus tomber dans le syndrome d'embaucher des belles marques de gens qui viennent de très grands groupes et qui ont potentiellement une difficulté en fait d'adaptation dans des structures plus petites et plus agiles, et c'est un peu plus le bordel. Voilà. Donc du coup, c'est un mix qu'il faut trouver entre les deux. C'est pas simple, mais il faut passer l'état d'esprit où en fait tu passes de l'étape donc non plus d'inventeur, non plus d'entrepreneur, mais de chef d'entreprise. Et là, du coup, il faut s'associer avec des gens qui l'ont déjà fait, voire déjà fait plusieurs fois. Et là, pour le coup, suivant les profils, en France, on peut vite se retrouver dans un monde un peu petit, quoi.
Ah bah justement, j'ai une question bonus pour toi, parce qu'on l'a brièvement abordé, mais c'est la question que je pose tout le temps. C'est comment tu as vécu justement cette verticalisation, professionnalisation des métiers, parce que à chaque fois, on en vient, tu viens justement de le mentionner, c'est qu'à un moment, c'est très bien au début, jusqu'à ton site, jusqu'à ta série A, d'avoir plein de généralistes, mais après, tu ne peux plus en avoir et tu dois forcer tout le monde à se spécialiser et aller plus en profondeur dans des métiers. Et c'est généralement un moment un peu de fracture avec qui est parfois un peu difficile à gérer. Comment tu l'as vécu?
C'est nécessaire. Tu le vis personnellement, c'est pas toujours simple parce que tu te remets toujours un petit peu en cause et tout. Puis tu dis que c'est peut-être toi qui fais des erreurs. Et d'ailleurs, il y a une partie de toi qui fait l'erreur. Hein. Puis en fait, tu dis que c'est bien pour le bien de la boîte, pour le bien des 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100 personnes qui travaillent avec toi. Et il faut que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, il faut l'expliquer aux gens qui travaillent avec toi et qu'ils le comprennent en général, parce que c'est des gens qui sont tous assez brillants, voire même très brillants. Et donc, du coup, ils comprennent qu'il faut passer à l'échelle, que la société grandit et que les choses changent et qu'il faut que les façons de travailler et les gens évoluent avec la société. Mais il faut l'expliquer. Ce n'est pas forcément évident les premières fois. Et puis, en fait, après, ça devient comme... Tous les 8 mois, en fait, on change de. Tous les ans, on change de locaux. Tous les 8 mois, on change d'organe de gouvernance dans la boîte et tout. Ben, en fait, au final, ça devient la norme de devoir changer régulièrement, ce qui est assez simple.
Tout à fait. Super. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très riche. Je te propose qu'on termine l'interview.